ne dois rien aux autres, je ne vis que pour moi-même.
Je sais quel genre d'homme vous êtes. Par là, j'entends que vous êtes un homme productif et raisonnable qui ne poursuit que son propre intérêt. C'est une force.
Prénom ?
Hein.
Nom ?
Rand. C'est un pseudonyme composé à partir de son vrai nom, Alissa Zinovievna Rosenbaum.
Date de naissance.
1905 à Saint-Pétersbourg. Sa famille sera ruinée après 1917 et elle gardera de ses années de jeunesse l'horreur du collectivisme.
Études.
Un peu de philosophie et ensuite sa passion, les études de cinéma.
Citoyenne américaine.
Elle réussit à passer aux États-Unis en 1926. Elle est naturalisée assez vite.
Profession.
Conférencière dans nombre de grandes universités, plutôt que professeur. Elle se dira intellectuelle. Elle revendique d'abord le rôle d'auteur de fiction, mais des fictions qui font la plus grande place aux idées.
Des devises possibles ?
L'égoïsme irrationnel, ou bien le capitalisme mérite d'être fondé sur des principes moraux, ou encore l'altruisme est un piège.
Des titres de ses œuvres.
Nous les vivants, 1936, La source vive, 1943, La grève, 1957, pour les deux derniers des best-sellers dès le départ, et tous de longs sellers. On répète que les livres d'Ayn Rand sont aux États-Unis ceux qui sont le mieux vendus après la Bible. Ils sont l'objet d'adaptations à l'écran, des jeux vidéo s'en inspirent. Chaque génération d'industrie culturelle recycle Ayn Rand.
Ses appartenances politiques.
Beaucoup de leaders se sont réclamés d'elle, de Reagan aux militants du Tea Party, à l'entourage de Trump. Elle était spontanément plus proche des républicains quand le parti comptait des libéraux et qu'il n'était pas submergé par la droite religieuse qu'elle a en horreur.
Mort.
Le 6 mars 1982, enterré à côté de son mari O'Connor, un acteur qui a renoncé au cinéma pour devenir, disait-il, monsieur Ayn Rand.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Eh bien, Alissa, c'était donc une jeune bourgeoise de Saint-Pétersbourg, fervente lectrice de romans, à commencer par ceux de Victor Hugo, en français. Dans Les Misérables, à Jean Valjean, elle préfère Enjolras, le jeune homme à la parole enfiévrée, l'amoureux de la liberté. La prise de pouvoir par les bolcheviks a donc contrarié tous ses projets. Elle a pu partir grâce à une éclaircie, la nouvelle politique économique de Lénine, mais elle s'est toujours considérée comme une miraculée du collectivisme. À la différence de l'héroïne de son premier roman, celui que préfère le premier de nos interlocuteurs, qui est l'introducteur d'Ayn Rand en France, le philosophe Alain Laurent.
Dès 1936, son premier roman, Nous les vivants, qui est une sorte d'autobiographie très romancée, où c'est le récit d'une jeune fille qui est étudiante pour faire du cinéma d'ailleurs, et qui s'échappe, qui tente de s'échapper du RSS et qui est abattue par les gardes frontières au moment où elle arrive à la dite frontière. Et il y a quelque chose qui est énoncé avec force dans ce roman, c'est « tout homme doit vivre pour soi ». Elle ne dit pas « ne vivre que pour soi », mais « vivre pour soi ». C'est sa perspective individualiste. Et à ce moment-là, c'est la fiction qui est première, et il en surgit quelques idées qu'elle va développer avec une constance remarquable pendant toutes les décennies de sa vie qui vont suivre.
Aux États-Unis, où elle est naturalisée dès 1931, elle se construit une nouvelle vie, et d'abord son pseudonyme, qui est pas mal trouvé. Elle devient lectrice de scénarii, puis auteure de scénarii, toujours, mais aussi de théâtre. Elle épouse un acteur, Frank O'Connor, qui ne fera pas carrière, mais qui pour elle représente le visage idéal. Tous deux participent à la campagne électorale de 1940. En 1932, Ayn Rand avait voté Roosevelt, parce qu'il annonçait la suppression de la prohibition, ce crime contre la liberté du commerce. Mais en 1940, elle ne supporte plus le New Deal. L'État régalien, c'est une commodité comme l'électricité, mais ce sont les individus qui doivent demeurer le moteur. Le philosophe américain Dick Howard.
Roosevelt se fait réélire en 1936. Il doit faire face à une Cour suprême qui est très à droite, qui va justement décréter que beaucoup des programmes du premier New Deal était anticonstitutionnel. Et c'est Roosevelt qui, donc, en 36-37, après la réélection, va dire, ben, il faudrait mettre fin à cela, et donc, on va élargir la Cour suprême. La New Deal, du coup, n'a pas de frein juridique et va proposer des programmes de plus en plus englobants. En même temps, ça provoque une certaine réaction. En politique, il y a toujours action et réaction. L'action de Roosevelt produit une réaction. 39 arrive, la guerre arrive. Roosevelt n'est pas dans une position d'intervenir directement. Et surtout parce que l'Amérique, y compris de gauche, est très anti-impérialiste. On est surtout contre les Britanniques. On veut mettre fin à l'impérialisme britannique, parce qu'impérialisme à l'époque, c'était l'Empire anglais.
Donc pendant la campagne électorale de 1940, Roosevelt ne peut pas dire trop haut qu'il est déterminé à soutenir l'effort de guerre de Churchill. Quant au candidat républicain qu'appuie Ayn Rand, il s'appelle Wilkie, bah il veut se tenir en dehors de la guerre. Mais enfin, il le dit mezzo voce.
À l'époque, c'était pas un sujet très, très, très discuté tout de même aux États-Unis. Il y a quelque chose qui préoccupait beaucoup plus Ayn Rand à l'époque sur le plan politique, c'était l'extrême perméabilité des liberals, c'est donc les libérales au sens américain du terme, qui veut dire progressistes, et puis du parti démocrate. Et ils étaient extrêmement, elle jugeait excessivement bienveillants, voire parfois complices, à l'égard de l'Union soviétique. Et elle est, comment dire, elle se révolte presque d'avance contre cette perspective que les États-Unis, à leur tour, sous la férule des démocrates, deviennent une sorte de démocratie socialiste. Et c'est ça qui la guide et qui l'a fait voter pour la première fois de sa vie, d'ailleurs, pour les républicains à l'époque.
Non, mais j'entends bien que la question de la guerre n'était pas posée explicitement, constamment pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'elle pensait de la nécessité de lutter contre Hitler ?
À ma connaissance, elle se peut exprimer là-dessus, mais pour elle, le nazisme était une pure horreur à la fois socialiste et collectiviste. Par la suite, elle a souvent traité ses ennemis de nazis. Pour elle, c'était vraiment l'abomination de la désolation. Quasiment autant que le communisme, mais pour elle, le nazisme était une sorte d'autre communisme.
À l'époque, elle est de plus en plus occupée par la rédaction d'un nouveau roman de dimension gigantesque. « Est-ce qu'on coupe dans la Bible ?» dira-t-elle plus tard, quand ses éditeurs s'aventureront à suggérer de faire plus court. Le contrat a été signé la veille de l'attaque de Pearl Harbor et de l'entrée en guerre des États-Unis. Le livre paraîtra en 1943. Il semble assez éloigné de l'enjeu majeur du moment, la défaite du nazisme. Alain Laurent, toujours.
Howard Roark est un architecte non conformiste, c'est un individualiste, quelqu'un qui professe que il détient seul les droits sur sa propre création et que personne n'a légitimité pour les lui dérober et en faire autre chose que ce qu'il a souhaité. Ce ne sont pas simplement les profits de sa création, parce que c'est quelqu'un qui a souvent vécu dans le roman pauvre, mais c'est le droit de disposer de son œuvre. Comment dire, par presque souci d'humanité, il a délégué à un autre jeune architecte qui était vraiment en panne de déboucher une partie de ce qu'il avait conçu. Il s'agissait d'ailleurs, c'est intéressant à noter au passage, de logements sociaux, mais il est trahi dans l'exécution de ça, et par conséquent, par un coup d'éclat, il décide d'incendier ces logements sociaux qui n'étaient pas conformes à ce que lui avait pensé dans leur conception, puis s'ensuit à la fin du
Alors,
roman.
Il incendie les logements sociaux et après, il va se retrouver l'objet d'un procès. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Howard Roark, pendant sa plaidoirie ?
Il dit par exemple ceci, « Je veux être seul à disposer, en effet, de moi-même, et nul n'a un quelconque droit sur une seule minute de ma vie. »
L'homme qui réfléchit doit agir en fonction de lui-même. Le cerveau ne peut travailler correctement sous la contrainte. Il ne peut être subordonné aux désirs, aux besoins d'autrui. Ce n'est pas un objet sacrificiel. Le Créateur assume ses choix. Le parasite suit l'opinion des autres. Le Créateur pense. Le parasite imite. Le Créateur produit. Le parasite pille. Le créateur aspire à conquérir la nature. Le parasite aspire à conquérir l'homme. Le créateur a besoin d'indépendance. Il n'est au service de personne. Il croit aux échanges équitables et à la liberté de décision. Le parasite cherche à dominer. Il veut une humanité conformiste pour la réduire en esclavage. Il répète que l'homme n'est fait que pour servir les autres, qu'il doit penser et agir comme les autres, et vivre dans cet état d'ingrate servitude. Un aperçu historique. Tout ce que nous avons, toutes nos grandes découvertes sont le fruit de la réflexion de cerveaux indépendants. Tous les carnages et les destructions sont nés de tentatives de transformer l'homme en robot. Un être sans droit, sans ambition personnelle, sans volonté, sans espoir, sans dignité. C'est un conflit vieux comme le monde. Il porte un autre nom, l'individu contre la collectivité.
Dans la voix du Kester, c'est un extrait de la plaidoirie de Ward Rock, tel qu'interprété par Gary Cooper soi-même, excusez du peu, dans l'adaptation cinématographique, car il y en a une dès 49, du livre d'Ayn Rand, signé King Vidor, le rebelle. Alors s'il y a quelqu'un qui a été agacé par la promotion du personnage de Ward Rourke, c'est bien l'architecte Frank Lloyd Wright. Certes, le feu a aussi traversé sa vie, mais le génie, c'est lui, pense-t-il, lui seul. Et il ne partage pas nécessairement les idées d'Ayn Rand. L'intraitable personnage a dû se féliciter de n'avoir pas construit de maison pour elle. Elle aime beaucoup un grand architecte, Lloyd Wright. Et puis elle aimerait bien que Lloyd Wright lui construise une maison. Mais Lloyd Wright lui dit, donne une épure et puis lui propose un contrat. Et alors ça coûte beaucoup trop cher. Et alors lui, seigneur, grand seigneur, lui dit, vous n'avez qu'à faire encore davantage de best-sellers et vous pourrez revenir.
Oui, mais elle l'a parfaitement accepté. Nul n'est obligé d'habiter dans la plus belle maison conçue par Lord Wright. En effet, et donc, si on le veut, en effet, il faut agir en fonction de son souhait. Donc, sinon, Lord Wright serait une sorte de distributeur automatique de superbes maisons. Ça la contrariait, évidemment, mais elle a compris et accepté tout à fait le bien fondé de cette démarche de Lord Wright. Elle ne l'a pas du tout voulu.
Vous vous souvenez, Alain Laurent, d'un film d'Antonioni qui s'appelle Zabriskie Point, notamment de la dernière séquence. Nous sommes dans le milieu révolutionnaire d'après 68 aux États-Unis. Et en haut de l'image, il y a la plus belle maison de Lord Wright. Et on va y mettre le feu et la faire exploser. La révolution va faire exploser la maison de Lord Wright. Elle n'aurait pas accepté ça.
Ah non, c'est le comble. La destruction d'une œuvre est pour elle l'un des crimes majeurs que l'on puisse commettre. Le crime contre l'esprit, puisque Ayn Rand est quelqu'un qui accorde une attention tout à fait particulière, c'est même ce qui passe tout à fait au premier plan de ses préoccupations, l'esprit.
Telle explosion.
Monsieur Lebrun, Ayn Rand est une personnalité de premier plan. À un moment, la fin de la présidence Eisenhower, où les États-Unis parviennent à une bifurcation.
Je vous propose d'entendre maintenant, pour répondre à cette interrogation, le philosophe américain Dick Howard. Il a hésité, pour dire le vrai, à participer à cette intelligence service. À la différence de nombre d'Américains de sa génération, il n'a en effet guère lu Ayn Rand. Il allait devoir le faire à la suite de notre invitation. Il n'en avait pas envie. Mais l'exercice va lui permettre de comprendre pourquoi, à un moment, la bifurcation, où se préparait l'élection de Kennedy et le mouvement des droits civiques, il n'est pas entré, lui, dans la voie que dessinait Ayn Rand.
L'ambiance des années 50, c'est l'ambiance du conformisme, etc. Donc c'est mes années de lycée, d'une certaine façon, et on veut en sortir. On ne veut pas devenir ce que sont devenus nos parents. Enfin, ça, je crois que c'est éternel chez les jeunes, mais passons. Donc, on est à la recherche du nouveau. Alors, il y a deux possibilité qui s'ouvre dans les années 60. Il y a d'abord la droite individualiste, si l'on veut, et ça, c'est le mouvement qui démarre fin des années 1959, début des années 60. C'est la droite individualiste qui va aboutir en 64 avec la candidature de Barry Goldwater. Et donc, là, nous sommes en 64, c'est l'aboutissement de ce premier moment. Vers la même époque, avec quelques années de décalage, le mouvement des droits civiques démarre, et démarre fort. L'autre option, celle que j'ai choisie, c'était la nouvelle gauche, où on insistait que c'était une nouvelle gauche. C'était pas justement un retour au communisme. Et les deux, donc, d'une certaine manière, partageaient un certain non-conformisme, un certain désir de refonder le monde.
Oui, mais la philosophie d'Ayn Rand avait un avantage, c'est qu'on y pénétrait par la fiction. Et on pouvait ainsi, plus facilement, entraîner les jeunes gens. Mais, se demande Dick Howard, était-ce une philosophie ?
Quand on a 18 ans et on rencontre une, entre guillemets, philosophe...
Philosophe entre guillemets ?
Ben, philosophe entre guillemets parce que... un philosophe, à mon sens, est important pour autant qu'il pose des questions, non pas pour les réponses qu'il donne et qu'il cherche à montrer. C'est-à-dire, un philosophe, oui, un philosophe est un chercheur. Elle avait un côté didactique.
Alors, vous manifestez un certain dédain qui a été celui des universités américaines à son égard ?
Non. Je mets le contexte historique. L'université américaine va décoller après la guerre. Elle va s'élargir de façon étonnante. Il y a ça, mais il y a surtout les nouvelles universitaires sont assez opportunistes. Et Ayn Rand va devenir une conférencière populaire. Elle va être invitée dans toutes les grandes universités qu'il s'agisse. Et c'est intéressant. Elle a été, d'après mes petites recherches, faire des conférences à Yale, à Princeton, mais aussi à West Point, mais aussi à Berkeley. Elle a donc pas mal roulé sa bosse. Imagine... comment je ferais, si je devais faire les conférences un peu dans les lieux éparpillés, je prends le train, je suis fatigué, je vais pas écrire une nouvelle conférence chaque fois, je vais porter la bonne parole. Là encore, on retrouve la différence que je proposais entre un philosophe qui pose des questions et un auteur qui prétend apporter les réponses.
Et cette bonne parole, Ayn Rand ne va pas hésiter à la dispenser devant de plus larges publics encore. Une interview qu'elle donnera à Playboy restera célèbre. Et plus encore, sa participation à des shows télévisés où elle aime tenir le rôle de la star au regard ravageur qui distribue de fortes maximes. Johnny Carson Show.
C'est la première fois que ma prochaine invitée vient dans ce show. Elle est sans doute une des voix les plus intenses, les plus franches et les plus intellectuelles en Amérique aujourd'hui. Voici son dernier livre, Capitalisme, un idéal inconnu, que vous trouverez, je pense, particulièrement original et polémique. Merci donc d'accueillir Madame Ayn Rand.
Le capitalisme ne dit pas aux hommes de souffrir, mais de rechercher le plaisir et le succès ici-bas.
Ayn Rand, 1967.
Capitalism does not tell men to serve and sacrifice.
Le capitalisme ne dit pas aux hommes de servir et de se sacrifier,
but to produce and profit.
Mais de produire et de profiter.
Capitalism does not preach passivity, humility, resignation.
Le capitalisme ne prêche pas la passivité, l'humilité et la résignation,
but independence,
mais l'indépendance,
self-confidence,
la confiance en soi,
self-reliance,
et l'autonomie.
And above all,
et plus que tout,
capitalism does not permit anyone to expect or demand.
Le capitalisme ne permet à personne de demander, d'exiger,
to give,
de donner
or to take
ou de prendre
the unearned,
ce qui n'a pas été gagné.
Car l'altruisme, autre maxime, est un piège. Une théorie parallèle à celle d'Ayn Rand fait son chemin dans les milieux conservateurs, celle dite des effets pervers. En essayant de faire davantage pour les pauvres, nous avons réussi à faire davantage de pauvres. En effet, la multiplication des procédures bureaucratiques finit par dégoûter de l'initiative. Aussi est-on étonné de voir encore quelques individus courageux prendre leurs responsabilités. Un exemple, emprunté à un cinéma qu'Ayn Rand aurait aimé, celui de Clint Eastwood. Sully, c'est le titre du film, c'est le surnom que porte le commandant de bord du vol US 1549. Son avion se trouve en perdition. La tour de contrôle ne lui propose que des solutions préfabriqués qui mèneront à la catastrophe.
Checklist de secours. Perte de poussée sur les deux réacteurs. Mayday, mayday, mayday. Ici Cactus 1549.
Nous avons percuté des oiseaux.
Maintenez 15 000, Delta 341.
Nous avons perdu la poussée sur les deux réacteurs et retournons à la Guardia.
D'accord, vous devez retourner à la Guardia. Bon, tournez à gauche, cap 220.
Cap 220.
Vous avez perdu quel réacteur?
Les deux réacteurs.
Chef, s'il vous plaît.
Oui.
J'ai une urgence.
D'accord. La Guardia dit de rejoindre la piste 13.
Cactus 1549, si on vous l'obtient, vous voulez essayer la piste 13?
Impossible, on risque de se retrouver dans l'Hudson.
Alors, sur votre droite, il y a l'aéroport de Teterboro.
On n'y arrivera pas.
Alors Sully va prendre sa responsabilité, celle de choisir sa propre solution pour sauver équipage et passagers.
C'est le commandant qui vous parle. Préparez-vous à l'impact.
C'est pas vrai.
Vous avez pensé à la comparaison avec les personnages des films de Clint Eastwood, le commandant de l'avion qui désobéit aux ordres,
exactement,
pose son avion.
Mais sachez que Clint Eastwood est un admirateur d'Ayn Rand. Donc c'est une excellente illustration.
France Inter, intelligence, service, Jean Lebrun.
Monsieur Lebrun, un dernier roman d'Ayn Rand va connaître un destin encore plus étonnant que le deuxième. La traduction française a pour titre « La grève ».
Oui, mais le titre original en anglais, le livre paraît, en 1957, c'est « Atlas Shrugged ». Les hommes et les femmes de l'esprit qui portent le monde, c'est Atlas, sont fatigués du poids que la société de contrôle et de règlement fait peser sur eux. Aussi de colère secouent-ils les épaules pour se débarrasser du joug. Et ils se mettent en grève, d'où le titre français, mais vous avez bien compris. Il s'agit d'une grève des créateurs et des entrepreneurs. La première phrase du livre, devenu culte aux États-Unis, qui est John Galt? Oui, c'est que nos grévistes vont être aimantés par ce John Galt qu'ils ont découvert alors qu'il était oublié. Alain Laurent.
John Galt, qui a créé d'ailleurs quelque chose de superbement écologique avant la lettre, puisqu'il a créé un moteur qui capte l'électricité statique de l'air et donc qui produit de l'énergie à un prix dérisoire dont tout le monde pourra bénéficier. Il invite, c'est dans un petit endroit du Colorado, au fin fond du Colorado, un endroit qui s'appelle Atlantis et où tous ces créateurs, ces producteurs se retrouvent entre eux en attendant des jours meilleurs. Ce sont eux, et ça illustre parfaitement le titre de l'ouvrage, le titre de travail, celui qu'on a choisi donc en français, la grève, ils se sont mis en grève. Et ils se sont mis en grève en fichant le camp. et disparaissent dans la nature. On part tout à fait dans la nature, sauf que c'est une superbe nature dans les Rocky Mountains, dans les montagnes rocheuses, ça se trouve. Donc, c'est une sorte de communauté idéale. Et ils vivent non pas dans l'opulence, mais ils vivent dans la frugalité. Chacun a un métier qu'on pourrait dire manuel. Il y en a qui est infirmier, un autre qui s'occupe d'approvisionner en bois. Mais ils sont libres de l'État, ils sont libres des prédateurs, etc.
Mais si vous partagez les valeurs de notre grève, si vous croyez que votre vie est un bien sacré que vous pouvez faire fructifier, si vous voulez vivre selon ce que vous dicte votre esprit et non pas les décrets de l'État, suivez-nous. Ne soutenez pas vos oppresseurs. Cessez de vous laisser exploiter par le système. Formez vos communautés aux frontières du monde décadent. Le monde dans lequel vous vivez est le monde qu'ils veulent. Laissez-le leur. Ceux qui vous ont quittés désirèrent un monde meilleur, un monde de liberté, un monde fondé sur le respect mutuel. Dans ce monde, vous vous lèverez le matin avec un esprit d'enfant, un esprit d'impatience et d'aventure, et l'assurance que ce monde est ce qu'il est et qu'il est à découvrir. Dans ce monde, vous n'attendez pas d'aumône, ni de pitié, ni le pardon de vos péchés, mais honneur, respect et justice.
La grève a été conçue pour fonder moralement l'individualisme qui avait été affirmé de manière plus romanesque dans La Source vive. C'est un livre construit sur des piliers bien visibles, hein, un roman d'idées fortes, écrit à chaud et à sable. Mais alors, le roman d'idées, on fait peut-être un rapprochement idiot en France, mais Jean-Paul Sartre ?
Oui, ça pourrait y ressembler d'une certaine façon. En tout cas, pour le troisième grand roman, celui qui s'est vendu, qui se vend toujours à des... je crois qu'on en est à 25 millions d'exemplaires vendus dans le aux États-Unis, plus ailleurs dans le monde entier. Il y a de cela... Et avec quelque chose, au moins, qui personnellement m'a toujours troublé, c'est-à-dire l'apparition, on pourrait presque dire, de héros positifs. C'est à se demander parfois si elle n'a pas été plus marquée qu'elle ne le croit par son expérience soviétique.
Do you know what my theory is? Can I tell you my theory? Tu veux savoir ma théorie à propos d'Ayn Rand? Yes. It's the most successful book of proletarian fiction ever written. It was a communist style.
C'est le livre le plus réussi de littérature prolétarienne qui ait jamais été écrit. Et quand je pense à littérature prolétarienne, c'est vraiment ce qui s'écrivait en Union soviétique dans les années 30.
What she does in Atlas Shrugged, the whole idea of the book is to take the proletarian sort of novel of the 1930s and stand it on its head.
Et qu'est-ce que c'est son bouquin Atlas Shrugged? La dernière traduction française c'était La Grève. Elle prend toutes les caractéristiques de la littérature prolétarienne des années 30, sauf que là, elle le retourne à l'envers.
So it's about the producer class rising up against the parasite class and going on strike.
Donc c'est là la classe des entrepreneurs et des milliardaires qui se soulève contre l'oppression de la classe des parasites et des travailleurs.
Yeah, parasite, that's us.
Parasite, c'est nous, en l'occurrence.
C'est la Maxime Gorky du capitalisme.
C'est Thomas Frank qu'on vient d'entendre. Il parle de littérature prolétarienne. Bah oui, La Grève, c'est un roman de gauche retourné comme un gant. Avec tout de même un peu de complexité. Les grévistes regroupés dans leur front pionnier autour de John Gale, c'est 1+1+1, etc. Mais ils ont tout de même accepté de constituer un groupe. Ayn Rand conçoit qu'il y ait des groupes, mais où personne n'est forcé d'entrer. La coopération volontaire, oui. La redistribution obligatoire, non. Il y a un personnage de pirate dans La Grève, une sorte de Robin des Bois, mais il redistribue aux riches.
Oui, oui. Il y a des gens perdus dans leur propre logique. Parce qu'effectivement, ce raisonnement... On va redistribuer aux riches parce qu'on les a trop ponctionnés. C'est logique, étant donné les prémices. Mais c'est aussi logique, une logique qui a une raison qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que, quand je dis, quand Ricoeur dit soi-même comme un autre, il y a aussi l'idée que je suis autre que le monde, mais mon être dépend de celui du monde.
Soi-même comme un autre, Dick Howard cite le philosophe français Paul Ricoeur, qui dans son éthique construit ainsi ce qu'il appelle l'estime de soi. La morale d'Ayn Rand, passons à la morale, elle est fondée sur le respect de soi. Je ne pense jamais à moi en me comparant. Ce qui compte, ce n'est pas le regard des autres, mais celui que je porte sur moi, me comparant à moi-même, à mes objectifs, à mes capacités.
Ce qui compte avant tout à ses yeux, c'est de lutter. Par ailleurs, dans la vision de d'Emerand, c'est ce qu'elle appelle le couple gagné-mérité. L'idée de mérite, ce qui est mérité, c'est-à-dire ce qui résulte de la logique de ses propres décisions, de sa propre action. Autrement dit, quelqu'un, fût-il le plus modeste que l'on puisse imaginer, mérite en effet ce qui va résulter de ses efforts, de ses initiatives, etc. C'est d'ailleurs illustré dans le troisième des romans, où ça se passe dans le monde du chemin de fer, donc qui était essentiel à l'époque, hein, dans les années 1930-1940, et où souvent les héros d'Enron sont de simples cheminots, mais qui, en effet, à leur modeste niveau, font tout ce qu'il faut pour accomplir quelque chose, en s'affranchissant parfois des conformismes, en ne respectant pas forcément les ordres qui leur sont donnés. Et pour ces gens-là, elle a une immense admiration. C'est ce qui explique, soit dit entre parenthèses, l'immense popularité d'Enron aux États-Unis, y compris chez des gens tout à fait modestes. Le philosophe Dominique Lecour expliquait qu'en effet, il avait fait connaissance d'Enron à l'aéroport Kennedy de New York parce que, attendant son avion, il ne savait pas quoi faire, eh bien, il achète, sans la connaître, un roman d'Enron. Et la barmaid qui vient le servir lui dit « Mais vous avez d'excellentes lectures ».
Il n'existe pas de droit à un emploi. Il y a seulement le droit de libre-échange, c'est-à-dire le droit d'un homme d'accepter un emploi si quelqu'un choisit de l'engager. Il n'y a pas de droit à un salaire ou à un prix équitable, si personne ne choisit de le payer ou d'engager un homme ou d'acheter son produit. Il n'y a pas de droit des consommateurs, que ce soit au lait, aux souliers, aux films ou au champagne, si aucun producteur ne choisit de produire de telles choses. Il y a seulement le droit de les produire soi-même. Il n'y a pas de droit de groupes spéciaux tels les droits des fermiers, des travailleurs, des hommes d'affaires, des employeurs, des employés, des vieux, des jeunes ou des enfants à naître. Seuls existent les droits de l'homme. Droits possédés par chaque homme individuel et par tous les hommes en tant qu'individus. Les droits de propriété et le droit de libre-échange sont les seuls droits économiques. Ce sont en fait des droits politiques. Et il ne peut exister de déclaration des droits économiques. Observez toutefois que les défenseurs de ceci n'ont fait que détruire cela.
Monsieur Lebrun, nous venons d'entendre le groupe canadien Rush, qui s'est dit à un moment proche d'Ayn Rand, dont les œuvres ont touché beaucoup de pays à travers le monde. Pourquoi, en revanche, n'a-t-elle guère pénétré jusqu'ici en France ?
Oui, en France, c'est un secret bien gardé, Ayn Rand. Exemple, la traduction de La Grève. Celle qui avait été entreprise dès 1958 avait été refusée par l'auteur qui l'avait jetée dans sa corbeille à papier. Finalement, une version approuvée par les ayants droit ne paraît qu'en 2011. Bien qu'éditée ensuite en poche par les Belles Lettres qui défendent avec constance Ayn Rand, elle ne connaît qu'une circulation limitée. Tentative d'explication de la réticence française par nos deux compères, Alain Laurent puis Tycho Ward.
La France est certainement le pays où ces idées ont le plus de mal à être acceptées, ou même elles sont d'emblée vilipendées, dénoncées, etc., avec tout ce qu'on peut dire sur l'ultra-capitalisme. Donc en effet, il y a une sorte de de premier barrage idéologique sur le rapport d'Ayn Rand, ou supposé d'Ayn Rand avec le capitalisme. Elle avait dit, mais je ne suis pas d'abord l'avocate du capitalisme, mais de l'égoïsme. Puis elle a dit, mais d'ailleurs, je ne suis pas non plus d'abord l'avocate de l'égoïsme, mais de la raison. Et le deuxième barrage, c'est celui, en effet, qui concerne l'égoïsme. Ce couple d'horreur dans le conformisme intellectuel français, le capitalisme et l'égoïsme, le barrage hérité de la toute-puissance du communisme, il y a quelque chose de spécifique à la France.
Pourquoi la France est-elle complètement imperméable, enfin au moins jusqu'ici, à Ayn Rand ?
Une réponse simple serait la classe du terminal au lycée. Le cours de philo. Oui, quand tout d'un coup on est exposé à une multiplicité, à la multiplicité des philosophies, des pensées, et on a aussi un sens historique.
Il y a tout de même un milieu en France qui pourrait être sensible à certaines argumentations d'Ayn Rand, c'est celui des chefs d'entreprise. Tout le monde peut s'en sortir, prenez vos responsabilités. Mais les patrons, même les mieux intentionnés qui disent ceci à leurs employés, risquent beaucoup de déconvenues. Souvenez-vous, Jean-Yann.
Alors, ben voilà, patron, on est bien embêté, mais on vient déposer un préavis de grève.
Ben, si c'est une question de revendication, ça serait peut-être mieux qu'on en discute avant.
Ah non, nos cahiers de revendication, ils sont à jour. Mais c'est la centrale qui nous pousse. Alors, la grève, elle est réclamée pour la nationalisation de votre groupe.
Je me laisserai pas faire parce que maintenant, le groupe Benoît Lepape représente une force colossale. Et ça, à tous les niveaux. Social, économique, politique. Cette force-là, il n'est pas question de laisser l'État en disposer. Et cette force-là, justement, je vais la remettre entre vos mains. Alors je me retire et je vous laisse tout.
Vous voulez qu'on dirige le groupe nous-mêmes ? Et c'est ça que vous voulez dire ?
C'est ça que je veux dire, puisque je me tire.
Eh oh, ça va pas, ça. Nous, on veut pas avoir une responsabilité pareille sur le dos.
On est très content de la façon dont se passent les choses actuellement. Si vous pouvez nous faire gagner un peu plus de sous, tant mieux.
Oui, pas alors. Oui, puis sorti de là, nous, on ne veut pas se filer dans les emmerdements. Je crois exprimer l'opinion générale.
Ah, oui, absolument. Vous êtes bien des tocards.
Mais être patron, c'est un état d'esprit. Et nous, on l'a pas.
Et oui, pour les disciples d'Ayn Rand, la France restera longtemps terre de mission. Aux États-Unis, en revanche, certains ont organisé une manière de culte autour d'elle. De son vivant. Parmi eux, un brillant jeune homme qui finira président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan. Ses fervents s'étaient arrangés pour habiter au plus près d'elle. L'un d'entre eux, Brandon, entra même plus avant dans son intimité, partageant sa vie tout en laissant une place parallèle à O'Connor, le mari, avant que tout n'explose. Mais revenons plutôt à l'écho que provoque Ayn Rand chez de simples pratiquants de ses livres. Par exemple, encore une entreprise, dans une série américaine. Une entreprise dont le chef s'interroge sur ceux de ses employés qu'il doit promouvoir.
Monsieur Cooper vous demande dans son bureau.
Merci, Peggy.
Je vous en prie, entrez. Don, j'apprécie énormément vos talents, et bien que ça ne se mesure pas aux chiffres, j'ai tout de même essayé de l'évaluer à ma façon.
2500 dollars ? Je...
Merci, c'est le mot que vous cherchez. Est-ce que vous l'avez lu ? Ayn Rand, La révolte d'Atlas. C'est un chef-d'œuvre.
Oui, c'est vrai, oui.
Je sais que vous ne l'avez pas lu. Quand on dépasse l'âge de 40 ans, on se rend compte qu'on a rencontré tous les types de personnes qui existent. Et je sais quel genre d'homme vous êtes. Parce qu'à mon sens, nous sommes pareils.
Je suppose que c'est flatteur.
Par là, j'entends que vous êtes un homme productif et raisonnable qui ne poursuit que son propre intérêt. C'est une force. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous regardons sans état d'âme tous ces gens qui dépendent de notre travail acharné. Investissez $1,99 de votre bonus dans ce livre. Vous ne le regretterez pas.
Monsieur Lebrun, quelle bonne ou mauvaise fortune Ayn Rand connaît-elle dans la vie politique mouvementée des États-Unis aujourd'hui ?
Commençons dans les années 2000, c'est la date de cette série Mad Men. Alors, ce chef d'entreprise, il est typique d'une espèce qui va bientôt disparaître, les libéraux purs. Le président Bush, à l'époque, a fait alliance avec des conservateurs qui, comme les libéraux purs, pensant que les États-Unis est la nation la plus morale de l'histoire, disent qu'elle a un rôle à jouer dans le vaste monde. Mais en même temps, il avait consolidé l'alliance avec les évangéliques, lesquels cherchent d'abord le retournement spirituel des États-Unis, le retour aux valeurs dites chrétiennes. Or, Ayn Rand est athée, irréductiblement, et son libéralisme inclut le droit des femmes à choisir, travail, famille, avortement. Donc le malentendu entre Ayn Rand et les nouveaux activistes républicains est appelé à s'aggraver. Dans les années 2010, le mouvement du Tea Party, qui se réclame pourtant d'elle, est profondément masculin, religieux, identitaire, même s'il clame le nom du héros de la grève. Je suis John Galt.
I am 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 John Galt.
Hi, I'm John Galt. Incognito.
Le Tea Party. Le refus des taxations excessives.
Ouais. Ouais.
Là, il y a eu une flambée en sa faveur.
Absolument, absolument. Elle a su mobiliser ou s'est laissé servir à des gens qui avaient des buts politiques qui n'étaient pas nécessairement les siennes. Quant au Tea Party, il y avait ce sens, ce sentiment d'injustice. Il y avait aussi une tendance avec laquelle elle n'aurait pas du tout été d'accord, parce que le Tea Party était anti-intellectuel. Un membre du Tea Party et un intellectuel, quelle que soit la définition, n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Il y a aussi, si on examine son influence dans la vie politique américaine, la question des alliances à poser. Sous Bush Junior, il y avait une alliance des néo-conservateurs, l'idée de l'intervention de l'Amérique pour la démocratie dans le vaste monde avec des forces religieuses, évangéliques, conservatrices. Elle n'était ni d'un côté de cette alliance, ni de l'autre côté de cette alliance.
Elle était foncièrement athée. C'est curieux, elle qui est manichéenne et en même temps athée.
Elle n'aurait pas été dans les alliances telles que les a formulées Reagan avec les évangéliques, elle n'aurait pas été dans les alliances telles que les a formulées Bush Junior avec aussi les évangéliques, elle n'aurait pas été dans les alliances telles que les a formulées Trump.
Non. Non.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est décalée.
C'est peut-être justement ce décalage qui est essentiel à ce qui fait l'intellectuel. C'est de sentir ce décalage, mais de l'interroger. Et elle, justement, elle est en décalage sans interrogation. Peut-être qu'elle se serait aperçue du décalage et qu'elle se serait mise à poser des questions.
Ce qui l'a choquée lorsqu'elle a essayé de coopérer, avant d'y renoncer à tout jamais, avec des gens de la sphère politique, c'est que les conservateurs étaient incurablement des fourriers de ce collectivisme à base religieuse. Et je rappelle, par exemple, que pour Ayn Rand, mais ça l'a prise très tôt, pour des femmes, la liberté de l'avortement était la moindre des choses. Quand il y a eu l'épisode de Tea Party, eh bien, il y avait des pancartes qui jaillissaient de temps en temps chez les gens qui manifestaient avec « Ayn Rand is back, where John Galt, le héros de la grève ». Alors, il y a eu quelqu'un de célèbre, je crois que c'était l'un des grands leaders des Républicains, mais de facture conservatrice, qui sentit Ayn Rand, « c'est bien de défendre le capitalisme, etc. » jusqu'au moment où il découvre horreur qu'elle était athée et que pour elle, aussi bien le racisme que l'interdiction d'avortement, c'était quelque chose de parfaitement scandaleux. Et du jour au lendemain, il déchire devant le public les ouvrages d'Ayn Rand en disant mais enfin, c'est presque une sorte de communisme, etc. Alors traiter Ayn Rand de communiste, fallait le faire, mais aux États-Unis, chez les ultra-conservateurs, tout est possible.
Ayn Rand est morte maintenant depuis près de 40 ans, en 1982. Néanmoins, chaque moment de polarisation de la vie politique américaine redonne une nouvelle jeunesse à son rôle de vedette de l'État minimal. Obama est-il élu qu'il dope involontairement ses ventes? Peut-être 1 million d'exemplaires les 2 premières années de son premier mandat. Les adversaires de l'élargissement du droit à la santé se régalent avec Ayn Rand. Trump est-il élu? Certains médias croient pouvoir dire « elle est l'auteur de chevet du nouveau président ». Si Trump lisait, ça se saurait. Et comment pourrait-elle approuver les mesures anti-libre-échangistes qu'il prend en rafale? Et comment elle, l'intellectuelle, pourrait-elle se reconnaître dans un personnage aussi peu rationnel, dans un rentier de surcroît, le type du capitaliste qu'elle déteste, l'héritier qui n'a rien inventé? On ne peut pas faire parler les morts, mais c'est sûr, elle dirait qu'avec Trump, l'Amérique fait sans doute fausse route. Il faudrait inventer un autre chemin qui n'est pas non plus celui de Joe Biden. Après tout, on n'a jamais expérimenté le capitalisme radical, le vrai. De quoi John Galt est-il le nom ? Remerciements à Dick Howard et Alain Laurent, à Catherine Bissière et Hugues Kester, à Anne-Sophie Ladonne, la prise de son Yann Fressy, Yves Le Horse, à la technique et la maison de Radio France, Florent Bujon, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard. C'était une réalisation d'Étienne Bertin.